si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. Elle aurait pu être détective ou juge d'instruction, ça ce sont ses mots. À la place, elle sera écrivaine et voyageuse. Depuis près de 40 ans et autant de récits, la Française Irène Frein instruit le monde à sa manière. De l'océan Indien à l'Asie, en passant par sa Bretagne natale jusqu'en Sibérie aujourd'hui. Cette semaine, on suit le pas et la plume d'une femme de lettres et d'histoire au pluriel. Une femme en mouvement et en quête de vérité, littéraire, historique, géographique, humaine en fait. Une auteure ou autrice en quête d'ailleurs et en quête de traces.
J'aime les traces. Oui, elles finissent par s'effacer. Mais pas toutes. Et la mémoire, lorsqu'elle triomphe de l'oubli, est féroce. Je l'ai compris un matin que je crapahutais dans les montagnes de Digne. Mon guide a pointé un bloc de grès. Ce rocher, avant d'être un rocher, avait été une plage qui bordait un océan. À la suite d'un enchaînement d'événements géologiques, dont le détail est inconnu, l'océan avait disparu, le sable de la plage s'était pétrifié, la roche ainsi formée s'était disloquée et l'un de ses fragments, au lieu d'aller se perdre sous les couches de sédiments, était resté en surface. C'était le bloc de grès que j'avais sous les yeux. Il portait des empreintes d'oiseaux, volatiles, dont on ne savait rien sinon qu'un jour, dans des temps extraordinairement reculés, 20, 30 millions d'années, il s'était posé sur une plage et l'avait traversée. Avec leurs traces, j'y étais presque dans ces premiers matins du monde. Ce qui a été est, nous disent les traces. C'est bien pourquoi elles nous subjuguent. Nous sommes happés par le siphon de la curiosité. Nous voulons à toute force les remonter, comprendre par quel miracle elles ont réchappé de l'oubli. Quand enfin nous la prenons, nous ne sommes pas comblés. Nous voulons découvrir ce que les traces n'ont pas dit. Savoir ce qui s'est passé avant, après elles, connaître leurs secrets.
Irène Frein, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait des premières pages de votre dernier ouvrage paru aux éditions Paulsen, « Je te suivrai en Sibérie », un livre dans lequel vous allez suivre donc jusqu'en Sibérie les traces d'une femme au destin inouï, on va en parler très vite. Mais d'abord, cette démarche d'exhumer le passé et ses traces, de révéler les empreintes laissées par des figures souvent oubliées, c'est la vôtre, Irène Frein, depuis votre premier roman, Le Nabab, sorti en 1982, un livre qui vous a emmené à l'époque dans le sillon d'un marin breton, René Madec, devenu nabab seigneur dans l'Inde du XVIIIe siècle. Partir sur les traces, c'est toujours la promesse d'un grand voyage, peut-être d'un grand livre aussi, non ?
Les traces sont une promesse, les traces, et je vous sais gré d'avoir cité ce texte parce qu'il est très important à mes yeux, à un moment où on commence à retourner sur son parcours. Chercher les traces, c'est une dynamique, c'est de la vie.
C'est une démarche d'ailleurs, puis c'est le nom de la collection dans laquelle
c'est une démarche, c'est-à-dire que c'est plus qu'une marche. C'est la marche avec la réflexion sur la marche. C'est la quête. Je crois que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre de leur vie, se demandent ce qu'ils font sur cette terre, se demandent comment de l'alpha énigmatique de leur vie, ils peuvent se trouver à tel point de leur existence. Et quand nous avons un mort, célèbre ou proche, devant nous, nous nous demandons quelle est... la dynamique qu'il a menée de sa naissance à sa mort.
Quel a été son chemin ?
Quel a été son chemin ?
Alors, pour vous, c'est une affaire littéraire ?
Oui, alors je le fais avec mes instruments. C'est-à-dire que le but est d'écrire, de faire littérature, de faire sens. Je crois que la littérature fait sens avec des moyens qui lui sont propres, qui se sont la poursuite de la vérité par les mots, par des mots forts et si possible des mots beaux, pas idéalisants. La beauté, c'est pas le joli, c'est pas faire mignon. La beauté littéraire, c'est une forme de vérité qu'on atteint à travers la puissance des mots. Donc, c'est aussi chaque fois un voyage vers le mot qui sera le plus juste et qui fera dynamiter pour le lecteur, le fait que lui aussi, il est soit dans la solitude, soit dans la tristesse, soit ça arrive aussi dans un hôpital, dans une prison. Les lecteurs, c'est universel. Mais la lecture, c'est toujours la recherche du voyage, de faire tomber les barrières. Comme disait Michel Butor, je l'ai mis en exergue à mon livre « La fille à histoire », écrire, c'est briser les barrières. Donc, ce que je cherche, c'est faire briser les barrières de nos clichés, de tout ce qu'on...
Nos convictions,
des
nos
convictions, des apparences. Et c'est souvent, dans mon cas, faire briser les barrières géographiques parce que mon enfance était celle d'un enfant enfermé.
Alors, vous avez parlé de voyage, Irène Frein. C'est vrai que dans cette démarche de partir sur les traces, vous écrivez et surtout vous voyagez. C'est indissociable, l'écriture et
oui,
le voyage.
Mais d'abord, je voyage à travers de ces traces qu'on appelle les archives. C'est-à-dire, par exemple, pour Madec, c'était les mémoires de ce petit mousse de Quimper, qui était parti par ma ville natale, Lorient, vers les Indes, comme on disait à l'époque, et qui, assistant au triomphe de Dupleix, se dit à Pondichéry, je vais en faire autant, je vais devenir nabab et je vais conquérir l'Inde. Alors, il y a ce que dit l'archive et il y a ce qu'elle ne dit pas. Il y a le blanc du texte. Donc, j'avais 30 ans, j'avais pas d'argent. Je décide de partir sur les traces de cet inconnu en Inde. Beaucoup d'écrivains, à l'époque, en France, se contentaient de raconter leur nombril et étaient fascinés aussi par le nouveau roman dont le but était de ne pas raconter d'histoire. L'histoire, donc, moi, ça m'est strictement égal. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je pars et je rencontre l'Inde. Je me la prends en pleine face et au bout de quelques jours de dérive émotionnelle, l'Inde a vraiment le don pour vous révéler à vous-même ce que vous êtes. Alors, vous supportez pas la confrontation avec ce que vous êtes. Et moi, je me dis que je vais... C'est pas possible, je vais pas pouvoir durer, mais moi, il y a dans quoi je tiens. Et au bout de quelques jours de dérive émotionnelle, je comprends que c'est pas du tout l'exotisme qui m'a entraînée en Inde, c'est le désir de comprendre et la soif d'histoire. Et que mon enfance... Ce qu'était mon enfance, c'est-à-dire un enfant rejeté par sa mère, une mère raconteuse d'histoire. Donc pour la séduire, je commence toute seule dans la solitude du grenier à me raconter des histoires. Et c'est pas hasard si je me retrouve en Inde, parce que je suis née dans un port qui avait été construit exclusivement au départ pour voyager vers ces fameuses Indes.
Alors, on va laisser un peu l'Inde de côté, l'Orient, mais on va en reparler. On va partir, si vous le voulez bien, Irène Frein, dans la très grande Russie, jusque dans ses confins, autour justement de votre dernier livre, « Je te suivrai en Sibérie » paru chez Paulsen. Et dans ce livre, vous reconstituez, vous ressuscitez d'une certaine manière le destin ahurissant, on peut le dire, de Pauline Goebel, je ne sais pas comment
on
dit.
Oui, il y a plusieurs
orthographes. Ou Anenkov, on peut dire
oui,
aussi.
Oui, on va dire à la russe Anenkova. Oui.
Alors, une Française du début du 19e siècle, à l'âme farouche, aventureuse aussi, qui a traversé finalement l'histoire un peu comme dans un roman russe. Qui était cette femme et surtout, comment vous avez croisé son chemin?
Mais c'est encore une histoire de manuscrit. C'est une éditrice qui me tend l'édition d'un manuscrit, édition faite par des Russes en 1975, à l'occasion du 150e anniversaire de la première révolte contre un tsar. Et donc, ce texte raconte à la première personne, c'est vraiment l'une des femmes mêlées à cette histoire, raconte sa vie.
Parce qu'en fait, c'est le récit qu'a fait donc Pauline à sa fille,
Olga, de ce qui lui est arrivé,
de sa propre vie,
depuis sa naissance jusqu'à un point de Sibérie, très éloigné, proche de la frontière mongole et chinoise. Le texte s'arrête brusquement sur le mot « enfer ». On connaît le reste de sa vie par d'autres documents, ils sont résumés, mais tout ça est très mystérieux. Alors, j'ai un doute, je me dis, comme c'est une édition soviétique, l'URSS, c'est, on sait très bien toutes les manipulations politiques et idéologiques qu'il y a, je me dis, c'est peut-être un fake, parce que c'est quand même très extraordinaire ce que raconte cette femme, c'est romanesque, c'est plus éblouissant qu'un roman. Pas en termes de littérature, mais
en termes de destin.
En termes de destin. Donc, je vais voir le manuscrit à Pétersbourg et je m'aperçois que le manuscrit porte toutes les marques de la vie, il n'a pas été trafiqué et que cette histoire est vraie.
Et quel est son destin, justement ?
Alors, son destin, c'est qu'elle part de Lorraine. Elle est d'une famille déclassée. Sa mère est une mère dévoratrice et manipulatrice. Ça, je le comprends assez vite. Et elle doit nourrir toute la famille. Depuis l'âge de 10 ans, elle est manipulée par sa mère, ainsi que sa jeune sœur. Elle devient cousette, puis vendeuse apparemment de grande qualité dans une grande maison de couture parisienne. Et elle a une soif d'aventure. Elle accepte une proposition pour aller à Moscou, où elle devient première vendeuse dans un magasin très célèbre. Et là, au bout de quelques mois, elle tombe sur un jeune, beau, riche, intelligentissime aristocrate qui la poursuit, elle ne veut pas céder, finalement elle cède, et au moment où elle est enceinte de 4-5 mois, elle s'aperçoit qu'il trempe dans une conspiration contre le tsar, il est pris, elle accouche seule, et elle va se battre pour le re-rencontrer, elle arrive à rentrer dans la forteresse où il est emprisonné, et elle lui fait le serment « je te suivrai en Sibérie », elle se déguise pour rentrer avec toutes sortes de choses.
Oui, parce que c'était un petit mot qu'elle avait réussi à lui faire passer sur une feuille de papier, et c'est le titre. Vous l'avez suivi, mais elle a suivi Ivan en Sibérie.
« Je te suivrai en Sibérie », et elle le fait alors qu'elle n'a pas d'argent. Et là-bas, elle fait les 6000 kilomètres qui séparent Pétersbourg de cet extrême Transbaïkalie où personne ne va à l'époque, peuplée de bandits, de nomades d'origine mongole, bouriate. Il n'y a pas de peuplement quasiment là-bas. Elle s'installe à la porte de la prison, elle épouse et elle va lutter avec 7 autres aristocrates qui ne sont absolument pas de son milieu. Et puis, brusquement, le manuscrit s'arrête. Donc, c'est une épopée absolument incroyable.
À part les condamnés de la première catégorie frappés du bagne à perpétuité, dont certains sont déjà en route pour la Sibérie, pour les autres, rien n'est prévu.
Vous êtes un consolateur bien optimiste, monsieur. Pour moi, j'ai cessé de croire en la mansuétude impériale.
La violence appelle la violence. J'avais mis Nicolas en garde.
Je connais votre amitié et votre fidélité pour Nicolas. Je vous en remercie, capitaine. Et si vous m'y autorisez, je voudrais en abuser. Je désire partager le sort de Nicolas.
Vous voudriez...
Oui. Le suivre en Sibérie.
Уже, наверно, сотню лет Душе моей покоя нет. Она дрожит, как блеск свечей на хрустале. С такою дивною судьбой, какое чудо, Боже мой, Что жили вы на этой горестной земле. С такою дивною судьбой, какое чудо, Боже мой, что жили вы на этой горестной земле?
Как благо место, чистый звон, всего 11 имен, но в целом мире право не с кем их сравнить. Жизнь подобная скупа, и высший свет на компомпа. Как вы смогли так неразумно поступить?
Жизнь наподобная скупа, и высший свет на компомпа. Как вы смогли так неразумно поступить? Merci, ma chère, mon ami. Adieu, ma chère, mon ami. Мое богатство, жизнь моя, и ты возьми ее, возьми. Пусть впереди забвенья тьма, я без тебя сойду с ума. Пардоне-муа, о мон амур, пардоне-муа.
Irène Frein, on vient d'entendre sur RFI une chanson écrite en hommage aux femmes des décembristes et juste avant, un extrait de l'adaptation télévisée française de la saga littéraire La Lumière des Justes, écrite par Henri Troyat qui s'est inspiré de l'histoire de Pauline et Ivan Anankov, sachant qu'ici, on l'a entendu, Ivan est devenu Nicolas. Alors dans votre livre, Ariane Frein, vous racontez cette histoire d'amour, mais surtout, vous donnez à voir la grande histoire avec cette insurrection décabriste ou décembriste, puisqu'elle s'est tenue le 14 décembre 1825. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette insurrection ?
Ce sont, pour l'essentiel, de jeunes aristocrates, extrêmement riches, richesse due au servage, qui veulent abolir le servage, qui ne supportent plus l'autocratie du tsar, enfin, qui peut disposer de la vie de quelqu'un à tout moment, aucune liberté de public, même des difficultés pour voyager, pas de journaux, pas de presse libre, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de pire, une dictature, en somme, religieuse de surcroît. Ces hommes sont inspirés par les idéaux des Lumières français. Ils parlent tous français, ils communiquent entre eux en français et ils veulent faire l'équivalent de la Révolution française en Russie. Et la plupart d'entre eux décident d'improviser cette révolution dans une période d'interrègne, c'est-à-dire le tsar précédent est mort et aucun des successeurs dynastiques ne veut prendre pouvoir de peur d'être assassiné. Donc ils disent c'est le moment et en quelques jours ils improvisent un peu n'importe quoi et le successeur qui lui finit par être tenté par le pouvoir malgré tout réussit à noyer en quelques heures cette Nicolas insurrection premier. Dans le sang. Il y a 2000 morts en 3 heures sur une des places de Saint-Pétersbourg et tous ces jeunes sont coffrés et condamnés par un espèce de tribunal fantoche et 5 d'entre eux, alors chose absolument phénoménale puisque la peine de mort n'existe pas depuis la tsarine Élisabeth, elle a été abolie, ils sont condamnés à mort. Et les autres condamnés à l'exil éternel, c'est le mot, en Sibérie. Ils ne reviendront jamais, en principe. C'est un pré-goulag, si vous voulez.
Sachant qu'il y a les insurgés, mais il y a aussi les femmes. Alors, épouses qui vont, elles, décider, justement, de tout perdre et de les suivre jusqu'en
Alors,
Sibérie.
Alors ça, c'est extraordinaire parce que l'opposition au tsar, parce qu'il va se créer une opposition souterraine, va être due à des femmes. Une d'origine, enfin très russe, mais d'origine française, Katia. Une autre princesse, la princesse Voskonskaya, qui a laissé des mémoires. D'autres aristocrates, de très riches, qui ont donc les moyens de partir en Sibérie, où elles vont se construire des maisons, de s'organiser quand même un voyage.
Alors que Pauline,
et
elle...
Et d'avoir des subsides quand elles seront sur place, tandis que Pauline n'a rien. Elle n'a rien.
Elle n'est pas mariée.
Elle n'est pas mariée.
Elle
est étrangère, ce qui est dans cette Russie
elle est pauvre.
Xénophobe, c'est énorme. Elle ne parle pas russe, elle est pauvre. Et par ailleurs, le gouvernement tsariste met tous les obstacles possibles sur la route. On ne peut voyager que l'hiver, c'est-à-dire par des températures avoisinant les 30 ou 40 degrés. En traîneau, bien entendu, il n'y a pas
moins
de moyens à l'époque.
Sûr.
Ça paraît pour tout le monde. Et elle peut être attaquée par les bandits et violée ou détroussée de tout l'argent qu'elle a sur elle.
Alors, pour toutes ces raisons, pour toute cette aventure, Pauline, finalement, est devenue, on peut le dire, une figure mythique. Puisque vous l'avez dit, elle a rejoint Ivan en Transbaïkalie. Ils vont se marier et vivre en exil là-bas plus de 30 ans, jusqu'à la mort du tsar. Et on a érigé, vous l'avez vu, sur place, que vous êtes déplacée,
des statues
à son effigie, à leur effigie. On a adossé des plaques, on raconte son histoire dans les musées locaux. Mais c'est vrai, comme dans tous les mythes aussi, il y a une part d'imagination, de fascination, de mystère et aussi de contre-vérité. Et c'est vrai qu'au sujet de Pauline, il y a des versions, des portraits en tout cas assez différents, contradictoires
Très
même.
Différents.
Puisque c'est... d'un côté, il y a, vous le dites dans votre ouvrage, l'écrivain russe, lui-même envoyé en exil Dostoïevski.
Au bagne, lui, carrément
voilà,
dans l'un
bagne.
Des bagnes de droit commun les plus durs. Il en parle de façon cryptée, Dostoïevski, dans les souvenirs de la maison des morts et aussi dans plusieurs lettres. Donc lui, pour lui, c'est la Madone. Elle l'a sauvé. D'ailleurs, dans les faits, c'est le gendre de Pauline et sa fille qui ont veillé sur lui quand il était au bagne et certainement permis sa survie. Et d'autre part, Dumas qui fait
Donc Alexandre Dumas, l'écrivain
français.
Une cocotte,
quoi, une espèce de
qui l'a décrit, oui, comme une femme frivole, légère.
Légère au sens sexuel du terme. Mm-hmm. C'est-à-dire une femme qui faisait commerce de son corps dans des milieux privilégiés.
Ce qui la met d'ailleurs, Pauline, très en colère. Et on sent,
y a de quoi.
Chez vous, bien sûr, qu'il y a comme une entreprise de réhabilitation,
oui.
Comme un désir
Alors,
de vérité.
Ce n'est pas simplement Pauline que ça a mis en colère, ça a été les décembristes rescapés, puisque ils ont vu qui était Pauline. Or, Pauline, c'est l'un des leaders de la résistance qui est organisée par les femmes à Chita.
Mais c'est une femme. C'est peut-être aussi pour ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme ça aussi un besoin de justice, puisque c'est vrai que pendant souvent, les hommes ont regardé d'un œil suspect ces femmes aventureuses. Il y a peut-être de ça aussi.
D'abord, au XIXe siècle, une femme qui voyage, c'est une... Il faut quand même être un peu... ça a toujours été le voyage ou le déplacement a toujours fait peur aux hommes. C'est pourquoi en Chine, les femmes avaient les pieds contraints, etc. Regardez la réputation qu'on a faite à George Sand. Et d'autre part, une femme qui voyage, pour les hommes, elle va rencontrer d'autres hommes et elle va vouloir se faire protéger. Et il va y avoir une sorte, dans la mentalité machiste, d'échange sexuel. Mais vous savez, je ne suis pas sûre que ce machisme n'opère pas toujours. Je pense qu'il est très, très opérant.
Parce qu'une femme aussi qui voyage, c'est une femme libre. Et avant Pauline, vous, Irène Frein, vous avez suivi des pas d'autres grandes figures féminines. Il y a eu Cléopâtre, dites-moi si je me trompe, Simone de Beauvoir, Marie Curie aussi.
Oui, la période où Marie Curie, justement après la mort de Pierre Curie, s'éprend de Paul Langevin et qui était une sorte de trou noir de la vie de Marie Curie puisque la famille noyait ça dans un silence prude et prudent. Et je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, parce que c'est une période à l'honneur de Marie Curie puisque elle a voulu affirmer cette passion au grand jour. Et c'est la société qui l'a empêchée. C'est une sorte de Roméo et Juliette de quadragénaire de l'époque qui avaient une liaison après des drames et qui voulaient refaire leur vie. Et on l'a empêchée de refaire sa vie. Et Marie Curie a toujours assumé cette passion. Donc j'ai retrouvé tous les documents, y compris les archives de police, puisqu'elle a été persécutée, sa maison a été lapidée, elle a été traînée dans la boue, elle a failli en mourir.
Mais on vous sent en quête aussi, je ne sais pas si c'est de modèle, mais en tout cas, c'est vrai que ces figures féminines, puissantes, c'est un mot qu'on dit beaucoup oui. Aujourd'hui, vous en aviez besoin, vous avez besoin aussi de les partager.
Oui, parce que je ne sais pas si ce sont des modèles, mais je pense qu'on ne s'intéresse sûrement pas à ces histoires-là par hasard. J'essaie de comprendre et de transmettre au lecteur comment elles ont tenu. Je voudrais être claire sur un point. Moi, je ne me projette pas sur les personnages. Je ne suis pas Marie Curie, ni Beauvoir, ni Pauline. Dans Marie Curie, ou par exemple Pauline, je reconstitue. Mais quand je ne sais pas, je dis au lecteur que je ne sais pas. Je ne vais pas remplir les blancs de l'histoire. Je suis très frontale dans mes démarches. Moi, je sépare très bien le document du roman. C'est très clair. Et par moments, les personnages, ce n'est pas des héros non plus. On peut avoir de l'empathie pour eux, précisément parce que c'est l'humanité. Et c'est là qu'il y a littérature. Il n'y a littérature que quand il y a humanité, c'est-à-dire grandeur, mais aussi faiblesse.
Alors, pour continuer sur les femmes, Irène Frein, plus récemment, en 2004, vous avez cherché le pays des femmes, quelque part entre
au royaume
la Chine
des femmes, oui.
Et le Tibet. C'était à l'occasion d'un voyage que vous avez fait sur les pas de Joseph
un très long
Francis
voyage,
Rock.
Oui. Un peu aventureux, celui-là,
oui.
Vraiment.
Alors, un explorateur, on peut en parler, américain, d'origine oui. Autrichienne, botaniste autodidacte, photographe
fille,
aussi.
Photographe de génie. Du National Geographic.
Tout à fait, qui est parti sur les contreforts de l'Himalaya en quête de cet énigmatique royaume ou pays des femmes dans le pays Golok. Où est-ce que c'est exactement ?
Ah, c'est le fin fond du monde. Quand je suis partie, avant de partir, j'ai étalé la carte de la Chine sur mon très grand lit. Avec mon mari, on s'est penché. On a mis à peu près 10 minutes à trouver où se trouvait le pays Golok, cette montagne de la Myémachène. Alors maintenant, elle est mieux connue parce que les Chinois ont construit une route. C'est une montagne sacrée, un peu comme le Kawa Karpo ou le Mont Kailash. Et ces Golok, personne ne les connaissait à l'époque parce qu'ils trucidaient tous ceux qui s'aventuraient. Et on disait qu'ils avaient une reine. En fait, ces sociétés matriarcales qui existent au sud-est de ce qui est la Chine actuellement, qui était un peu le Tibet historique de l'époque, le Yunnan, le Sichuan, l'Amdo, le Gansu.
Alors nous, en 2015, on avait rencontré le photographe français Pierre de Vallombreuse autour de son ouvrage « Souveraine » et il nous en avait dit plus justement sur les survivances de cette étonnante société matriarcale qui l'a lui aussi fasciné.
Il y a eu toujours ce fantasme de ce peuple où les femmes seraient très libres. Les textes anciens évoquent la tribu des femmes tigres et des annales de l'époque. King dénonce ces femmes qui ne se marient jamais et s'accouplent sauvagement comme des animaux. Les Mossou, c'est certainement une des sociétés où on s'approche le plus du matriarcat. C'est-à-dire que c'est matrilinéaire, les femmes ont le nom du clan. C'est matrilocal, l'homme va vivre, ou surtout ses enfants, avec la mère, parce que l'homme ne va pas forcément toujours vivre avec sa femme et ses enfants. Et en plus, il y a l'avant-coula qui est que l'éducation est donnée par l'oncle, mais maternelle. Ce qui fait que l'homme, en gros, doit travailler, subvenir aux besoins, comme la femme, elle travaille beaucoup aussi, tout le monde travaille chez eux. Mais effectivement, là, on voit quand même qu'il y a une prédominance de la femme extrêmement forte. C'est pas pour les femmes sont libres, ça veut dire libre d'être femme. Donc voilà, parce qu'il y a une sexualité qui est libre, mais ce n'est pas débridé, ce n'est pas n'importe quoi. Déjà, une jeune femme, elle a droit à une chambre au rez-de-chaussée, avec sa porte personnelle, privée, qui donne sur l'extérieur, et elle peut recevoir ses amants. Ça ne veut pas dire que c'est débridé, qu'on fasse n'importe quoi. Des femmes peuvent avoir des amants, des hommes aussi, mais ce n'est pas très bien vu. J'ai parlé avec les... J'ai dit, mais alors, ça... mais non, ça vous fantasmez beaucoup. On n'a pas de censure, mais un couple qui vit ensemble et qui s'aime, ils ne vont pas aller fricoter à droite et à gauche. Par contre, quand on ne s'aime plus, on est libre de faire ce qu'on veut. On reste ensemble tant qu'on s'aime. Et donc, c'est l'amour.
Aux confins du sud-ouest de la Chine, au bord du lac Lugu, non loin de la frontière tibétaine, résident donc les Mossou,
oui.
Un peuple de matriarches qui encore aujourd'hui intrigue le monde et aujourd'hui sa cohorte de touristes.
Oui, hélas,
et pour bien
oui,
comprendre, oui. Joseph Roch est parti, lui, en quête d'un royaume au pays Golok. Et finalement, les héritiers, ce sont les Mossou et peut-être aussi un peu les Nashi, je crois.
Voilà, c'est-à-dire que Joseph Roch est fascinant parce qu'il est parti chercher très loin ce qu'il avait sous les yeux.
Parce qu'il a vécu parmi eux.
Et il était au sud-ouest, Yunnan, Sichuan, et il a eu vent de cette histoire et de cette fameuse montagne. Il a volé d'ailleurs cette histoire à un espion britannique. C'est assez fascinant. Il a entamé une course-poursuite avec lui et il s'est juré de voir cette montagne dont l'espion britannique lui avait dit qu'elle était plus haute que l'Everest et de photographier la reine des femmes ou reine des Amazones. Il n'a pas trouvé la montagne, c'était un échec total. Le National Geographic était très déçu, pas de reine des femmes. Et en arrivant, totalement désespéré, il s'est aperçu que les peuplades Mossou et Nashi dont vous venez de parler étaient les descendantes de ces royaumes matrilinéaires matriarcaux qui avaient été décrits par les textes, les annales dont parle Monsieur de Vallombreuse et qu'elles étaient sous son nez. Et là, il va renoncer à la célébrité, à la filouterie, à l'exploration pour se consacrer toute sa vie à l'étude de ces peuples. Il va faire un dictionnaire monumental qui est rarissime actuellement, qui conserve. C'est un morceau du patrimoine de l'humanité. Donc moi, je suis allée sur ces traces, je suis allée jusqu'à la montagne que j'ai vue et j'ai voyagé évidemment dans les archives et j'ai rencontré en effet, plutôt dans des endroits pas touristiques, des représentantes de ces sociétés matrilinéaires. Plus que matriarcale, je n'aime pas ce mot, c'est-à-dire que c'est un système où tout est inversé de notre système machiste occidental.
Alors pour revenir à vos voyages, pas seulement celui-là, mais plus spécifiquement sur l'Asie, l'Asie et l'Inde en particulier, c'est une passion, ce sont des lieux, des terres où vous êtes allé très souvent. Vous l'avez dit, ça ne date pas d'hier. Vous avez grandi en Bretagne, vous me voyez venir à Lorient, dans le Morbihan.
Port de la Compagnie des Indes, qui signifiait tout Lorient avec une apostrophe, c'était le nom d'un bateau.
Ce que j'ai découvert, c'est-à-dire que Lorient, oui, en fait, c'est Lorient,
oui,
apostrophe.
En anglais, The Orient. Quand je suis en Inde, je dis toujours, je viens d'un port qui s'appelait The Orient et qui n'aurait jamais existé sans la Compagnie des Indes. C'est un trait de plume de Colbert et surtout de Louis XIV.
Et vous pensez vraiment, vous êtes sûr que c'est ça qui vous a envoyé vers les Indes ?
Originellement, c'est le manque d'affection de ma mère. Je me souviens très bien d'une scène où on a été exceptionnellement seuls, elle et moi. Elle m'a entraînée dans une exposition sur la Compagnie des Indes, la première, après toutes les destructions de la guerre, qui a dû se passer pendant les années 50. J'ai un souvenir extrêmement précis de découvrir une assiette Compagnie des Indes, de monter dans la tour Vigie qui surveillait les entrées, les départs, les retours des navires Compagnie des Indes, qui s'appelle la Tour de la Découverte, qui existe toujours à Lorient. Et j'ai toujours eu cette attraction. Mais néanmoins, je pense que j'avais les pieds tout à fait sur terre, car quand il y a eu la vague hippie, j'ai tout de suite senti que c'était pas moi, ça. C'était pas, je n'allais pas chercher fuir l'Occident. Et j'avais toujours trouvé que c'était des oripeaux, que c'était du déguisé, ça recouvrait un autre mal-être qui était celui du mal-être de la société de consommation en réalité. Donc j'étais pas dans ce mal-être. Moi, c'était un attrait pour quelque chose de plus secret. Je ne savais pas quoi. Et finalement, j'ai compris. Le peuple le plus lié à l'imaginaire, le plus grand réceptacle d'histoire du monde, qui a d'ailleurs produit un texte très connu de tous ceux qui aiment l'Inde, qui s'appelle le Katasaritsagara, ce qui veut dire l'océan où se jette la rivière des histoires. Le plus grand réservoir du monde d'histoire, c'est l'Inde. C'est pas pour rien que Kipling, c'est une mentalité coloniale, c'est sûr, mais a écrit une œuvre de conteur absolument extraordinaire, du chat qui s'en va tout seul au livre de la jungle, à l'homme qui voulait être roi. C'est prodigieux du point de vue narratif. Et ça a inspiré énormément d'écrivains dans le monde entier, ce réservoir d'histoire de l'Inde. Et le sommet, c'est évidemment le Mahabharata, qui est à la fois un livre de sagesse à tous égards.
Alors on va continuer à voyager d'histoire en histoire et on va prendre à présent, Irène Frein, la direction de l'océan Indien, sur les traces cette fois des naufragés de Tromelin, un minuscule atoll de sable battu par les vents où s'est passé un épisode de l'histoire longtemps oublié.
Qu'est-ce qui a marqué cette île qui s'appelle maintenant Tromelin depuis 1825, à l'époque l'île de sable? C'est une histoire tragique qui est le naufrage d'un navire de la Compagnie des Indes qui s'appelle l'Utile en 1761. Il se trouve que ce bateau rentrait de Madagascar où on l'avait envoyé prendre des vivres, du riz et du bœuf, et le capitaine embarque en gros 150 esclaves malgaches sur son bateau. Les esclaves malgaches sont parqués dans la cale du navire, ce qui n'est pas vraiment un navire négrier, pas équipé pour transporter des esclaves. Et on a cloué les panneaux pour pas qu'ils s'échappent, enfin pour pas qu'ils se révoltent. Ce qui fait que probablement le nombre des esclaves noyés avoisine 70 à 80. Donc tout le monde se retrouve sur cette île qui en fait a les caractéristiques particulières et qu'elle fait 1 km², c'est-à-dire 1700 mètres de long sur 750 de large. Les marins français entreprennent tout de suite, avec les débris de leur bateau, de construire une embarcation de fortune. Près de 90 esclaves malgaches sont laissés sur l'île, en leur donnant un peu de vivres qui restent, une lettre de recommandation au cas où un bateau viendrait à passer, et en leur disant « ne bougez pas, on vient vous rechercher ». On sauvera les derniers survivants, qui sont 7 femmes et un bébé de 8 mois, 15 ans après.
Irène Frein, en 2009, vous avez consacré un ouvrage à ce tragique épisode du naufrage de l'Utile. Max Guéroux, archéologue sous-marin, qui a mené plusieurs campagnes de fouilles sur cette île de Tromelin qu'on vient d'entendre, on l'avait rencontré en 2014 dans le cadre d'un reportage sur les terres australes et antarctiques françaises, les TAF, auxquelles Tromelin, qui est situé dans les îles Éparses, dans l'océan Indien, dont loin de Madagascar appartient. Et d'une certaine manière, vous aussi, un peu comme un archéologue, vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé. On est toujours sur cette histoire de traces. Comment vous avez procédé cette fois? Parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Qu'est-ce qui reste sur cette île de Tromelin?
C'est-à-dire ce sont les archives, toujours pareil, et le déplacement. Aller sur place.
Parce que vous y êtes allé sur ce petit
oui,
morceau de sable
d'un kilomètre carré. Oui, on m'a voulu m'empêcher d'y aller, mais comme on m'avait dit que c'était impossible, je l'ai réalisé.
Mais c'est une histoire fascinante, parce que cet abandon des esclaves malgaches.
Il fallait croiser
malgaches.
Les archives, il fallait interroger l'archive. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait deux versions de l'histoire. Une version de l'écrivain de bord et une version anonyme et en lisant très attentivement le texte, on comprenait que c'était le second du capitaine qui était devenu fou après le naufrage, qu'il avait écrit en compagnie du chirurgien de bord. Cette archive avait été un grand succès, finalement, d'édition, mais sous forme de 4-5 pages, vous voyez, qui étaient distribuées par des colporteurs qui parcouraient la France, vendaient de la quincaillerie, de la mercerie, et ça a fasciné tout le monde. Et j'ai recoupé la version de l'écrivain de bord et l'autre. Mais pour comprendre comment ça se passait, il fallait aller sur place. Voyez-vous.
Sachant que dans le cas de ces esclaves oubliés, donc en 1776, quand on revient les chercher, il en reste, Max Guéroux l'a dit, 8 survivants. On a retrouvé plus ou moins...
7 femmes et un enfant.
C'est ça, des traces de comment ils ont pu survivre.
Oui, alors cela dit, les traces, elles étaient connues avant les fouilles. Et l'histoire est très connue dans l'océan Indien parce qu'on pensait trouver sur l'île le trésor du fameux pirate La Buse.
Donc, tous ces coins-là, c'est effectivement une terre
pas du tout
de
protégé.
Naufrages et de trésors.
Ah oui, il y a eu quantité de naufrages. Et en tout cas, on n'a pas trouvé de squelettes, de tombes, de naufragés malgaches. Moi, j'ai refusé d'écrire l'histoire des malgaches parce qu'on n'avait pas assez de documents et par respect pour ces naufragés malgaches, j'ai refusé de faire du roman. Moi, je trouve qu'on ne fait pas un roman sur Auschwitz. Primo Levi peut témoigner d'Auschwitz ou d'autres, Simone Veil, mais on ne fait pas un roman sur Auschwitz. Ces Tromelin, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Il fallait aller sur place pour se rendre compte dans ces tripes de ce que c'est. Quand vous voyez l'avion partir, l'avion qui apporte le ravitaillement toutes les 6 semaines.
Pour la petite station météorologique.
Pour la petite station météo. Bon, il m'avait été permis de rester quelques jours avec ces gens-là, finalement. C'est personnel absolument formidable de la station météo, j'avais compris ce que c'était l'abandon. On se dit, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive si c'est la guerre ? Ben, on nous oublie complètement, on meurt là, c'est clair. Et donc, quand vous mettez les sensations, c'est-à-dire le sel, l'air salin qui vous donne soif au bout d'un quart d'heure, vous avez de l'eau minérale, vous la transportez avec vous, mais vous n'avez pas traversé l'île à pied, que vous êtes assoiffé au dernier degré, que vous avez vidé votre 1 litre d'eau déjà. Et quand vous avez compris que vous vivriez dans le bruit incessant, le vacarme des vagues, et que le sable qui fait très Club Med par avion, il vous coupe les pieds, c'est cristallin, et que vous pouvez à peine vous baigner, même pas mettre les pieds dans l'eau parce que vous allez les emporter par les vagues, que vous voyez par beau temps se former ces pyramides qui ont créé par beau temps le naufrage en pleine nuit, par nuit sans lune du fameux naufrage, là vous comprenez quelque chose. Et qui va au-delà qui vous permet de comprendre que celui qui a vécu dans cette île, qu'il soit blanc ou noir, a été réuni par une fraternité pour eux à un certain moment, parce que nous sommes frères humains dans la souffrance, et d'abord dans la souffrance physique. La leçon de cette histoire, c'est que pour avoir partagé les souffrances pendant 56 jours, certains d'entre eux, parmi les Blancs, ont compris qu'il était impossible de considérer qu'on pouvait faire d'un autre humain un esclave. Deux de ceux qui ont rentré, Castellan, le lieutenant qui n'a jamais pu obtenir, il s'est battu pendant des années pour qu'un navire vienne chercher les esclaves.
Malgache,
il avait fait une promesse, il avait été, il voulait la faire respecter. On comprend qu'il est inspiré Condorcet, lequel Condorcet parviendra à l'abolition de l'esclavage,
la
etc.
Première abolition.
Et moi, je défends la fraternité humaine. Je n'ai pas voulu faire de cette histoire une héroïsation de l'un contre l'autre. Il n'y a pas eu de suprématie blanche ni noire. Il y a eu des gens, quelques personnes qui ont compris que l'esclavage était une horreur et qu'il fallait s'unir pour les droits humains et non pas lutter les uns contre les autres. Et surtout, il fallait renoncer à cette abomination de l'esclavage.
On va rester encore un peu dans les îles, Irène Frein, en musique cette fois, avec l'artiste Yann Tiersen, grand amoureux de Ouessant, dernière île française avant l'Amérique. Cap donc sur la mer d'Iroise avec Dieu's Annos, soit la prière du soir sur RFI.
Dieu's Annos, Mister Fons, Sonatos, Faramos. Si proche, voyage sur RFI.
Irène Frein, avec vous, on a parlé de votre passion, de votre relation avec l'Inde, une terre, une culture et des hommes auxquels vous avez consacré, on l'a dit, de nombreux ouvrages. Et récemment, autre voyage, vous êtes partie au Rajasthan, au nord de l'Inde, dans le désert de Thar, à la rencontre cette fois d'une communauté toujours fascinante, pionnier de l'écologie, les Bishnoi.
Les Bishnoi, c'est un peuple qui vit donc au Rajasthan, au désert du Thar, depuis 500 ans, en harmonie avec la nature, l'environnement, et qui ont été fondés suite à un bouleversement climatique qui a duré entre 1475 et 1485. En fait, il y a une sécheresse qui a duré pendant 10 ans. Et les gens, et ils commençaient tous à devenir un peu fous, parce qu'il n'y avait plus d'eau. Tout ce qui pouvait être mangeable, ils le mangeaient. Les animaux, vraiment de tout. Ils coupaient les arbres pour revendre le bois. Et à cette époque-là, donc, il y a un homme, un Rajput, qui s'appelait Jean Béchoir, qui a commencé à parler autour de lui en disant « Mais si vous continuez comme ça, à agir comme ça, votre terre sera totalement stérile, il n'y aura plus rien. Soit vous continuez à persister dans ce que vous faites et vous mourrez ici, soit vous allez être des migrants sans savoir votre avenir, soit vous changez complètement vos façons de vivre. » À l'époque, il leur a dit « Moi, j'ai 29 règles à vous proposer. » C'est très simple, hein, c'est des règles de base. Planter un arbre minimum par an et pas en couper. On arrête de manger de la viande et on est prêt à mourir s'il le faut pour sauver les animaux sauvages. Donc, c'était un homme visionnaire et qui a réussi à, jusqu'à aujourd'hui à inspirer les gens. Ils sont entre 700 et 800 000 aujourd'hui. Et c'est assez magique de voir des hommes qui voient des gazelles arriver, tendre la main et manger dans la main. Quoi. On n'est pas dans un zoo, c'est des animaux sauvages et c'est vraiment impressionnant. C'est très touchant de voir ça. C'est la beauté de l'humanité, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça.
Irène Frein, vous avez reconnu Franck Vogel, vous me l'avez dit.
Un homme merveilleux, un photographe d'exception.
Français, tout à fait.
D'une générosité, d'une humanité profonde, on s'est vraiment retrouvé.
Parce que vous avez travaillé avec lui. Alors, nous, on l'avait rencontré en 2018 sur ce travail, notamment autour des Bishnoi. Vous avez collaboré ensemble sur cette communauté. Il s'est pris, comme vous, de passion pour ce peuple. Un peuple qui, on l'a entendu, a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui, en ces temps
de
chaos climatique.
Les premiers éco-citoyens raisonnés de la planète. C'est-à-dire que...
Puisqu'on est au XVe siècle au départ.
Au XVe siècle, c'est 1485, le début de la communauté à Samratals, en haut d'une dune. On connaît à peu près le contenu des prêches de ce Jumbo, mais prêche est peut-être pas un mot, moi je dirais c'est presque un discours politique, un programme politique environnemental.
Avec donc 29 préceptes, donc Bishnoi, c'est ce que ça veut dire.
Ça veut dire 29, oui. Et moi j'ai découvert leurs histoires dans un journal indien. Mais l'histoire terminale, c'est-à-dire en 1730, quand 363 d'entre eux, à l'initiative d'une femme, vont donner leur vie pour les arbres. Ils vont se laisser décapiter parce qu'ils ne veulent pas donner leurs arbres. Et au 363e, écœurés, les soldats chargés de les décapiter désertent, renoncent. Et le Maharaja qui avait ordonné cette décapitation pour des raisons de faste, c'est-à-dire faire de la chaux pour pouvoir faire des fresques dans son palais qui voulait plus beau que celui de son cousin. On est vraiment dans presque des motifs à la Trump, je dirais, assez de façon polémique, mais j'assume mon côté polémique sur ce point. Et là, je lis ça et je me dis, comment peut-on donner sa vie pour un arbre ? Mon père était écolo avant que l'écologie, on connaisse même le mot, dans les années 50. Donc, j'ai eu certains principes qui m'ont été donnés par mon père. Et je me dis, mais moi, je suis dans cette mouvance, mais je ne pourrais pas donner ma vie pour des arbres. Et donc, 10 jours plus tard, j'ai tapoté sur Internet, j'ai établi un programme de voyage et je pars.
Et donc, vous avez écrit La forêt des 29, oui. Et vous parlez effectivement de ce massacre de 1730. Vous évoquez évidemment ce prophète du 15e siècle. Et dans les premières pages de ce livre, vous évoquez aussi les charanes, alors des vagabonds, oui, des bardes, presque des griots en quelque sorte, qui puissent vous écrivez, c'est très beau, dans l'eau des souvenirs et qui sont sourciers de la mémoire.
Oui.
Et vous dites, ce sont eux qui ont effectivement, et c'est vrai, transmis cette histoire du 15e siècle. Moi, j'y ai vu finalement une ode au voyage et aux voyageurs, ces vagabonds qui puissent dans l'eau du souvenir. Je me suis dit, c'est un peu ce que vous faites, en fait, depuis 40 ans.
Mais il y a aussi les voyages intérieurs, c'est-à-dire que voyager, c'est aller à la rencontre de la mémoire des peuples. Nous ne sommes rien sans mémoire. Les dictateurs commencent par supprimer la mémoire, ils brûlent les bibliothèques, ils anéantissent les archives et ils font des gens décérébrés, ils les coupent de leurs racines. Ce que moi j'adore dans les voyages, c'est aller à la recherche des racines de l'autre pour voir comment il s'est constitué. D'ailleurs, dans les rapports humains aussi, juste de personne à une autre. Mais le voyage permet ça au dernier degré. Et rencontrer la mémoire de l'autre, c'est aussi se poser la question de sa propre mémoire et c'est se tenir droit, pouvoir continuer à avancer. On ne peut pas fabriquer son futur si on n'a pas sa mémoire. Et actuellement, pour la survie de la planète, ça passe par la mémoire. Et c'est pourquoi tous ces peuples qui sont en Amazonie ou par exemple en Australie, les aborigènes et partout dans le monde, les Mosso dont nous avons parlé tout à l'heure, la culture bretonne ancestrale, chacun peut, qui nous écoute ou les Bichneuil peut trouver midi à sa porte à travers les minuscules exemples que je cite. Aller à sa rencontre de la mémoire, c'est permettre de construire le futur qui est menacé actuellement. Nous sommes tous menacés de mort. Notre survie est dans notre mémoire. Tout le passé des hommes a construit une façon harmonieuse de vivre avec la nature, qui était une façon également dure, une façon qui avait sa violence, mais aussi qui avait son respect. Les choses ont à double face. Donc je crois que tout ce qui unit mes livres, c'est cette ode à la mémoire et au voyage comme rencontre avec l'autre. Le voyage, s'il est déplacement, n'a aucun intérêt. On consomme du voyage. Beaucoup, beaucoup de voyages sont présentés comme évasion, on est fatigué, on va aller ailleurs. Mais quel est cet ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait de cet ailleurs? Et s'il est rencontre, ce voyage, s'il est interrogation, s'il est curiosité au sens où la curiosité va nous désorienter, va nous chambouler, va nous secouer, eh bien à ce moment-là, le voyage est une richesse et il ne tient pas à la richesse qu'on investit dans ce voyage, la classe business, le palace, le tour de 28 jours au lieu du tour de 8 jours. Il est dans notre application, dans notre volonté de comprendre, dans notre recherche, dans notre remise en question. Et dans une remise en question qui va être renvoyer de la richesse, un héritage immatériel qui va nourrir notre quotidien du matin où nous nous levons. Nous devons faire des choix simples pour notre alimentation, pour nos choix politiques, jusqu'à notre sommeil et jusqu'à nos rêves.
Ben je vois que le voyage continue. Merci, Renfrew.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Je te suivrai en Sibérie, paru aux éditions Paulsen. Céline de Vélé-Mazurel, Laure Allary, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI ou de nos podcasts sur toutes les bonnes applis. Bonne semaine à tous. En 2000